FM, connecté à votre région.
Théâtre, art plastique, design, bienvenue dans Façon de voir, le billet 100% culture de Nevers FM. Car la culture, comme je le dis toujours, on n'en a jamais assez. Ce n'est pas mon invité du jour, designer céramiste, qui dira le contraire. Bonjour Clément Boutillon.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cette invitation pour parler à mon micro pendant une petite heure de faïence contemporaine, c'est bien ça?
Oui, c'est ça.
Et puis d'autres choses aussi, j'espère. Tu as ta boutique rue des Récollets, boutique atelier, une deuxième boutique, on va dire, rue Mitterrand à Nevers.
C'est ça, donc j'ai l'atelier boutique en fait où je fabrique la terre. Fabrique les objets en terre rue des Récollets, donc 14 rue des Récollets. Et la verrière, donc boutique de créateurs en collaboration avec Desmé Bijoux, où on va avoir plutôt la partie mise au point des pièces, l'atelier de Manon pour la fabrication de bijoux et ma nouvelle marque de bougies estampes.
Dans un instant, tu vas nous parler de ton parcours et de ton actualité. Dans la deuxième partie de l'émission, Clément Denuit évoquera les haltérophiles, un cycle de conférences donné dans le cadre de l'Université Populaire, et ce sera notre pastille Où sortir. Pour l'heure, on écoute ABC Fou Gail. Restez bien à l'écoute. À tout à l'heure, Clément.
À tout à l'heure. Even tried to bite my tongue when you started shit. Now you're texting all my friends, asking questions. They never even liked you in the first place. Dated a girl that I hate for the attention. She only made it 2 days, what a connection. It's like you'd do anything for my affection. You're going all about it in the worst ways. I was into you.
But your dog, you can all fuck off.
Clément Boutillon est mon invité aujourd'hui pour cette édition 100% design. Clément, tu es donc céramiste depuis maintenant une bonne poignée d'années.
Oui, je suis alors à la fois designer et céramiste.
Voilà, ce sont des créations contemporaines, donc tu t'inspires d'un procédé traditionnel, et d'ailleurs tu travailles avec la faïence à Nevers, c'est pas innocent bien sûr, non, tu non. es revenu dans une cité historique pour la faïence, et tu apportes des technologies nouvelles dans cet art traditionnel de la céramique, et du coup, effectivement, on parle à ce titre plutôt de design, c'est ça?
Oui, c'est ça, en fait... J'ai appris en fait à dessiner des objets, notamment à Paris, et c'est venu en fait un peu par hasard de vouloir produire mes propres pièces et les imaginer. Et en fait, à un moment, j'ai approché une pièce par le travail de la terre, de la céramique, notamment avec la faïencerie Georges qui m'a accompagné, qui m'a appris à fabriquer des moules. Et c'est à partir de là que j'ai compris en fait que je pouvais associer le métier de designer, qui est donc d'imaginer des objets, à celui de la céramique, pour pouvoir imaginer mes pièces et les fabriquer dans mon atelier. Et en fait, dans le design et dans la création, c'est quelque chose d'assez long d'imaginer un objet, d'apporter ce qu'il faut pour que l'objet soit percutant, qu'il soit intéressant. Et le fait de maîtriser la céramique, notamment la faïence, m'a permis de pouvoir passer du temps à mettre au point ces objets et leur apporter... le nécessaire pour les rendre intrigants.
L'ensemble des objets que tu proposes appartiennent plutôt aux arts de la table. En même temps, on trouve également des lampes, des appliques. On va dire que ce sont des objets de l'intérieur domestique.
Oui, c'est ça. En fait, je pense que c'est un art de vivre. Donc, ça a commencé par de l'art de la table. En fait, j'ai commencé en imaginant une théière, donc en faïence. Et plus le temps passe et plus j'approche notamment la décoration avec des pièces de plus en plus grandes, notamment avec des vases et des luminaires, pour aussi pouvoir travailler avec les décorateurs et les architectes.
Alors c'est toujours un petit peu délicat de décrire des objets à la radio puisqu'on n'a pas l'image, mais on va quand même faire un effort d'imagination et puis on mettra sur les réseaux sociaux quelques images si tu en es d'accord de ta production. On peut dire que ton univers, on sent également la double influence de la nouveauté et de la tradition dans ton univers. On note quand même une touche un peu science-fiction et en même temps le matériau est toujours souligné par une facture, un émail ou une bordure sur lesquelles on voit la faïence, etc. C'est-à-dire que cette double influence est toujours perceptible. Hein.
Oui, en fait, je veux en fait créer de la faïence qui soit très contemporaine, très moderne, et ça, je l'approche aussi par une esthétique particulière. Donc, des objets qui ont une vraie signature, qui ont des univers. Il y a des univers particuliers comme l'inspiration notamment du design organique qui va donc aller sur l'univers de la montagne par exemple, de l'océan, des choses comme ça. Et des fois c'est tout simplement le questionnement de la manière dont on utilise l'objet. En fait je veux que chaque objet ait une histoire à raconter. Ça peut être par exemple la théière qui n'a plus aucun ornement sur sa forme et tout est incorporé, le bouchon vient à fleur, on ouvre le bouchon, il y a le filtre qui est dessiné pour arriver en dessous, etc. La poignée a un dessin spécial pour la rendre confortable à utiliser, et d'un autre côté on va avoir justement le bougeoir canyon par exemple qui s'inspire des formes des canyons qu'on peut retrouver avec une esthétique quand même travailler pour faire un objet qui va durer dans le temps, qui soit pas un objet de mode. Donc je passe du temps à faire en sorte que cet objet soit assez sobre et en même temps assez étonnant.
La nature comme source d'inspiration, peut-être le Japon aussi parfois.
Tout le monde me dit le Japon. Et alors j'adore cette idée, l'idée du Japon. J'y suis pas encore allé malheureusement, mais c'est vrai. J'adore l'artisanat japonais dans la manière dont ils travaillent. Et c'est vrai que je pense que la manière dont je dessine un objet va avoir une influence sur la manière dont on va l'utiliser, le percevoir. Et moi, je veux vraiment que ce soit des objets qu'on va se transmettre en fait et qui vont durer dans le temps par leur esthétique.
Oui, c'est des choses qu'on trouve écrites, mais tu le revendiques pas forcément. C'est pas une volonté de s'approcher de ce type de...
Non,
de
je pense qu'en fait, ça se fait naturellement.
Est-ce que tu peux nous parler de ce qui précède l'idée d'un objet? Tu nous as parlé de la théière comme un peu un projet initiatique. Depuis, il y en a eu d'autres, des bougeoirs, des lampes, etc. Comment naît un objet, d'abord dans ton esprit ou peut-être même directement sur la terre, je ne sais pas?
Alors, ça passe jamais directement par la terre, tout simplement parce qu'en fait, j'intègre beaucoup l'héritage du travail du design et du designer. Et donc, c'est un travail d'abord de dessin, d'écrit aussi, c'est-à-dire que pour chaque objet, un sujet différent et une manière de l'imaginer qui passe soit par la manière de l'utiliser, par exemple pour un objet fonctionnel comme la théière, comme par exemple même le coquetier, ou des choses plus qui vont plus vers le rêve, on va dire, et vers l'imagination pour des objets de décoration. Chaque objet, j'imagine. Alors c'est aussi catégorisé par collection maintenant, c'est-à-dire qu'il y a des univers comme la montagne, l'océan, le mouvement qu'on appelle l'assise-mort par exemple. À chaque fois, voilà, il faut trouver des codes, trouver ce qui va rendre l'objet intéressant et le démarquer par rapport à un autre objet. Et ce qui est aussi important, je trouve, dans l'approche que je veux donner à la faïence que je travaille, c'est de faire des objets qu'on ne peut pas faire, par exemple, par tournage ou avec des méthodes traditionnelles. Moi, j'aime bien pouvoir voilà, imaginer des objets qu'on ne pourra pas avoir à côté.
En l'occurrence, tu travailles plutôt par moulage, hein, c'est-à-dire tu fabriques toi-même tes moules en plâtre.
Exactement.
Et puis ensuite, alors tu n'y connais pas grand-chose, donc tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais c'est donc une technique de couler où tu déposes de la barbotine de faïence, c'est ça, pour obtenir ensuite une terre crue que tu émailles.
Exactement. Donc je dessine en fait un objet qui va ensuite passer par la sculpture numérique, par l'impression 3D. Donc en fait, tout ça est complémentaire dans mon travail et apporte justement le fait de pouvoir fabriquer ces objets. Ça permet de mettre au point des détails techniques, de formes, et ensuite à la fin d'avoir vraiment une forme que j'ai longuement dessinée avant et qui colle et qui va fonctionner une fois l'objet réalisé.
Justement, j'allais te parler de l'importance de l'outil numérique dans ta façon de travailler. Donc tu parles du recours au dessin, qui est très important. Est-ce que le numérique infléchit les formes aussi, à sa manière? Comment ça intervient dans ce processus?
Eh ben, le numérique, en fait, a beaucoup changé ces dernières années, parce que ça a énormément évolué. C'est de plus en plus facile de mettre au point des formes qu'on ne pouvait même pas imaginer avant, qu'on ne pouvait pas concevoir. En même temps, l'impression 3D aussi a un peu bousculé les codes dans l'industrie, notamment pour moi plus dans l'artisanat, car ça permet justement de fabriquer ces formes qu'on aurait mis un temps incroyable à fabriquer avant et on n'aurait pas pu reproduire en série. Moi, ça me permet justement de rentrer dans cette démarche d'objets qu'on va pas produire forcément que en pièces uniques, mais en série et en leur apportant cette signature particulière. Donc le dessin va avec. C'est souvent des allers-retours, c'est-à-dire que je commence par le dessin, j'imagine mon objet, etc. Et ensuite, je le mets au point par sculpture numérique, donc je vais le remodéliser dans l'ordinateur. Et là, à partir de là, il y a encore une longue étape qui est celle de mettre au point la forme, peut-être de revenir vers le dessin, d'aller un peu plus loin, de faire le moule et de revenir. Par exemple, là, je suis en train de dessiner une nouvelle théière où eh ben, il y a plein de calages et je vais peut-être revenir derrière, là, aller justement dans le four en train de cuire pour voir ce que ça donne. Et peut-être qu'il va falloir repasser sur l'ordinateur pour repeaufiner la forme.
Ce que personnellement je trouve d'autant plus intéressant, c'est que si on se rend dans ta boutique atelier, on peut non seulement voir tes productions, mais on peut aussi te voir au travail. Et notamment, parfois tu exposes même les moules, c'est-à-dire que le processus que tu es en train de décrire, il peut être visible si on vient sur place.
Ah oui, c'est ça, dans les deux ateliers, donc comme à La Verrière maintenant, qui est l'atelier de design et de production de moules. Donc il y a la partie boutique devant, mais bien sûr il suffit de demander, on peut aller voir les ateliers derrière, comme les ateliers de Manon, et aussi dans l'atelier boutique rue des Récollets, donc lui qui est plus ouvert maintenant en sonnant à l'interphone pour que je puisse aller d'un atelier à l'autre. C'est pareil, on peut, il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous. Moi, c'est toujours un plaisir de montrer un peu comment sont faites les pièces, de voir tous les moules. Là, il y a à peu près, je ne sais pas, peut-être une centaine de moules dans l'atelier et de voir toutes les étapes parce que l'atelier s'est très perfectionné, on va dire, ces dernières années.
Alors parlons justement de la Verrière. C'est un atelier boutique qui fait l'objet d'une collaboration avec Manon Desmet, c'est ça, qui est créatrice de bijoux.
C'est ça.
Et ensemble, vous avez développé, est-ce qu'on peut appeler ça une gamme ou une collection? Comment tu décris cette...
Alors en fait, on s'est rejoint sur des projets communs. Donc Manon a été un moment dans l'atelier rue des Récollets et cherchait un nouvel atelier pour s'installer. Moi, je montais un projet de bougies qui s'appelle les bougies estampes, donc en faïence de Nevers, qui sont disponibles que à Nevers et qui sont décorées par des illustrateurs. Et il fallait qu'on trouve un espace où on ait assez de visibilité, où on puisse travailler, présenter le travail et le vendre. Et en fait, on a trouvé cet espace qu'on a acheté en commun, qu'on a entièrement rénové, donc électricité, plafond, placo, etc., pour en faire à la fois un atelier partagé, où elle va fabriquer ses bijoux, moi je vais fabriquer mes bougies, et en même temps on va vendre aussi nos créations dans la partie boutique. Et c'est aussi une boutique commune de créateurs, c'est-à-dire qu'on accueille des créateurs par le biais d'une association pour pouvoir les vendre dans la boutique.
Donc il y a des guests régulièrement quand même.
C'est ça. Ah oui, là il y a toujours à peu près une dizaine de créateurs différents. L'idée c'est de se compléter et d'offrir une collection globale pour Nevers, sachant que la première chose c'est vraiment l'artisanat qu'on met en avant, français.
Tu disais que tes objets racontaient une histoire. Là tu viens de parler de la bougie estampe.
Oui, c'est ça.
Est-ce que le nom des objets fait partie de leur histoire?
Ah. Le nom, c'est toujours un peu compliqué parce qu'il y a à la fois les inspirations qui sont au début et ensuite la partie plutôt stratégique qui vient après. Dans mon travail, je fais un peu tout, on va dire. C'est-à-dire, je fais à la fois la création, la partie commerciale, etc. Donc il y a aussi à réfléchir au nom qu'on va lui donner, qui va avoir de l'importance sur... la manière dont on va le trouver sur Internet, etc. Donc j'essaie de combiner un peu les deux, de trouver un nom à la fois évocateur par rapport à ce que j'ai voulu transmettre dans l'objet, mais aussi assez intéressant pour qu'on on se pose dessus si on le voit passer juste par le nom. Are you drunk now? Now I judge what I'm doing. Are you high now? To a skills that I'm ruined, 'cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. Everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
here, so come get your everything.
Tonight.
I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
Tonight.
Nouvelle FM.
Calvin Harris, Promises, je suis toujours avec Clément Boutillon, designer, créateur céramiste, installé à Nevers. Ça va toujours ?
Ah, ça va, super.
On va aborder maintenant ton parcours, si tu le veux bien. Tu es originaire de Nevers et puis tu as fait un long séjour à Paris pour, en fait, pour la fin de tes études, hein, c'est ça ?
Oui, c'est ça. En fait, j'ai commencé en fait, le bac STI art appliqué à Nicolas. Il s'appelle maintenant STD2A. Où j'ai en fait appris à un peu tous les domaines. J'ai été initié à tous les domaines de création, donc qui va du graphisme au design produit par l'architecture d'intérieur. Et c'est ensuite en allant à Paris que je me suis spécialisé dans le design d'objets, le design produit, à l'ENSAMA, donc Olivier de Serres, pendant, je crois, 5 ans. Et donc pendant ces années-là, j'ai fait beaucoup de projets personnels, des concours, enfin j'ai pas mal complété en fait ma formation pour pouvoir trouver un peu dans quoi je serais le plus à l'aise, on va dire. Et en même temps, j'ai commencé à travailler pour des artistes, à faire des stages chez d'autres designers. Et en fait, tout ça, c'est un peu fait dans le monde du luxe, du mobilier, de la cosmétique, tout cet univers-là.
Aujourd'hui, tu travailles principalement la faïence rouge, qui est une matière un petit peu capricieuse, hein, très, très molle, assez difficile à travailler, impossible à tourner, par exemple ou...
Alors, je ne suis pas l'expert là-dedans, je dirais que ça se tourne. Elle est plutôt capricieuse en cuisson, elle est fragile. Moi, j'aime la faïence rouge tout simplement parce que quand vous allez utiliser, par exemple, le coquetier ou la théière ou les tasses, quand vous allez retourner la pièce, même après de plusieurs années, en fait, on aura toujours une terre rouge qui ne sera pas salie par le temps, alors que la faïence blanche peut plus facilement salir. Et je réserve la faïence blanche plutôt aux grandes pièces qui, elles, ont besoin de mieux réagir parce que c'est encore autre chose de travailler des grands objets. La céramique, c'est vraiment une matière qui vit très capricieuse et faut souvent adapter son travail et sa manière de travailler dessus.
Et ce goût pour la faïence, c'est notamment ce qui explique ton retour à Nevers, qui correspond aussi pour toi à un retour aux sources, en quelque sorte. Hein. Nevers, donc évidemment, ville historique de la faïence, mais en plus, tu viens de là.
Oui, c'est ça. En fait, je suis revenu... En fait, après mon travail à Paris, il y avait une envie de changer, mais d'un autre côté, il y a aussi le Covid qui est arrivé et qui m'a un peu poussé dans ma voie. C'est-à-dire que premier confinement, je le passe dans mon appartement à Paris, donc enfermé dans une pièce à dessiner ma collection. Donc pour moi, c'était le meilleur moment que je pouvais passer. J'avais beaucoup de travail, beaucoup de choses à poser sur la table, on va dire. Et ensuite, deuxième confinement, impossible de rester à Paris, tout simplement parce que j'avais dessiné ma collection. Et là, il fallait mettre au point les moules, etc., ce que je ne pouvais pas faire à Paris. Donc, retour en fait dans l'atelier des parents qui m'ont accueilli pour que je puisse installer un petit atelier et mettre au point les premiers moules, la première collection.
Entre tes années d'études à l'ENSAMA et ton retour à Nevers, tu as également travaillé avec et collaboré avec des grands noms du design à Paris, comme par exemple Noé Duchaufour-Lawrence, mais d'autres designers peut-être.
Oui, ça c'était incroyable, c'est que par exemple Noé Duchaufour, j'étais donc en stage chez lui pendant quelques mois, donc on a pu travailler pour Ligne Rosée, pour des grands noms du design et du mobilier. Et ensuite, travail pour Kosia Guessi, donc aussi en tant que freelance pendant les études, pendant ma dernière année d'études, où là on travaillait plutôt sur de la sculpture, du mobilier en pièces uniques fabriquées par des artisans. Et, et en même temps aussi un gros travail avec des agences de cosmétiques, de champagne spiritueux. Donc j'imaginais avec eux et je travaillais sur la création de formes de bouteilles et de vasques, etc. pour des grands noms comme beaucoup de marques de cognac, champagne, voilà.
Tu as travaillé uniquement la céramique sur cette période ou également d'autres matériaux ?
Pour l'instant, beaucoup la céramique. En fait, avant de faire de la céramique, j'ai approché différents matériaux. C'est-à-dire que j'avais commencé à créer trois objets. Il y avait une guitare électrique qui mélangeait aluminium et bois. Donc là, il y avait un travail à la fois de métal et d'ébénisterie. Il y avait des baguettes à sushi qui étaient fabriquées par un joaillier et argentées par un orfèvre. Donc là aussi, on combinait deux autres métiers que je connaissais pas du tout. Et le troisième était de la céramique. Et en fait, pour moi, ce qui m'a le plus intéressé, c'était de passer par le moulage, d'imaginer les moules et de pouvoir faire ça en céramique.
Aujourd'hui, tu as parlé de tes principales influences. Donc, on a évoqué la nature, la montagne. On a très peu parlé de la science-fiction. Oui. Pourtant, c'est quand même quelque chose qui, pour le coup, est assez lisible dans tes formats. C'est-à-dire qu'il y a quand même une dimension. Alors, j'aime pas trop dire futuriste parce que je sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, qui évoque.
Si, je veux que ce soit futuriste.
Ouais. Alors, explique-nous.
Science-fiction, oui. J'en ai pas beaucoup parlé parce qu'en fait, c'est peut-être l'univers le plus compliqué à mettre au point. Donc, aujourd'hui, dedans, il y a quelques pièces, il y a un cendrier à cigares, il y a une lampe, la lampe Manta, et il y a un nouveau vase, le vase qui s'appelle pour l'instant Aéro, mais qui va changer de nom. En fait, c'est un design, une manière de travailler qui se rapproche beaucoup de tous les objets qu'on va trouver dans les films de science-fiction. On peut penser à Star Wars, par exemple, et à bien d'autres aujourd'hui. C'est aussi beaucoup inspiré du design automobile. Faut savoir qu'en fait ces designers qui travaillent là-dedans sont des designers incroyables qui dessinent tous les jours pendant des heures, et donc c'est un travail très très long à mettre au point, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup parce que justement c'est un univers qu'on trouve très peu ailleurs, et donc il est en cours de développement encore sur de nouvelles pièces. Il faut le temps de dessiner les objets. Je reste patient pour ça, et il le faut pour avoir de bons objets.
Est-ce que la science-fiction, c'est également quelque chose un goût que tu cultives en dehors de ton activité ? Moi, je sais par exemple que tu joues du piano. Uh-huh. Est-ce que dans tes autres marottes, il y a des choses qui nourrissent ton travail, ou même tout simplement, est-ce que tu peux nous parler de tes autres passions ?
Je pense que, vu que mon métier est un peu un métier d'entrepreneuriat, il faut rester hyper curieux pour aller un peu plus loin. Et moi, j'aime bien découvrir plein de choses. Dans mes passions, il y a en effet, qui se rapproche un peu de la science-fiction, il y a le parapente, mais qui reste encore assez différent. Mais ouais, il y a cette idée de voler. Il y a le piano, où là on n'est plus du tout dans la science-fiction, on est plutôt dans le classique, dans l'impro, des choses comme ça, mais que j'ai pu reprendre justement en arrivant à Nevers. Et après, c'est de la curiosité. Là, par exemple, je vais apprendre le travail du cuir, qui va m'emmener un peu, enfin pas ailleurs, mais qui va me permettre d'emmener la céramique un peu plus loin. Et après, il n'y aura pas que de la céramique de toute manière. Je m'intéresse au travail du bois, au travail du métal, pas forcément en tant qu'artisan, mais j'ouvre un peu la collection sur des choses un peu plus grandes.
Et la rencontre avec d'autres matériaux, c'est quelque chose que tu veux développer toi-même, ou ce sera l'objet d'autres collaborations, comme par exemple ta collaboration actuelle avec cette créatrice de bijoux? Est-ce que tu envisages d'autres créations futures ou...
Alors oui. Donc par exemple avec Manon, on n'a pas fait de collaboration ensemble, même si le bijou sera sûrement un sujet un jour. Mais ce sera pas moi l'artisan, en effet, ce sera plutôt d'autres artisans avec qui je vais travailler. Donc là, je réfléchis comment aborder ça. Ce sera peut-être à travers peut-être une collection virtuelle, donc passer justement par la sculpture numérique, pour ensuite proposer directement les objets aux décorateurs, qui puissent les insérer dans leur projet de rénovation.
Alors on va parler de ça dans un instant. Tu restes avec nous, Clément. On va aborder ton actualité, tes projets futurs, juste après la pause musicale. On écoute maintenant Andrea Laszlo, Simone Conchiglie. Et juste après la pause musicale, on écoutera Clément Denuit. Décidément, que des Cléments aujourd'hui dans l'invité, dans l'émission du jour. Clément Denuit qui nous présentera Les Haltérophiles dans le cadre de l'Université Populaire. C'est un cycle de conférences mené dans la Nièvre. A tout de suite, Clément.
A toutes.
Non ti sei fatto male, proprio come pensavo. Vedi, non serve a niente ripararsi dal vento. Siamo solo conchiglie sparse sulla sabbia. Niente potrà tornare a quando il mare era calmo. Sei un po' spaventato, proprio come pensavo. Vedi, non serve a niente rintanarti in te stesso. Siamo solo conchiglie sparse sulla sabbia. Niente potrà tornare a quando il mare era calmo.
Je me trouve maintenant avec Clément Denuit et Émilie Chameau qui me parlent des haltérophiles, un cycle de conférences organisé dans le cadre de l'Université Populaire. Bonjour à vous. Première question, qu'est-ce que l'Université Populaire ?
L'Université Populaire, c'est l'occasion pour des gens de développer un savoir. Alors, en l'occurrence, de se former et puis de s'auto-former sur des sujets extrêmement variés.
Le principe de cette université, c'est que tout le monde peut y venir pour écouter des cours sur différents sujets qu'on redétaillera sans doute tout à l'heure. Mais tout le monde peut également proposer des sujets sur lesquels il se sent expert, un sujet qu'il maîtrise et sur lequel il peut exposer. Donc nous faisons une sélection sur différents thèmes qui peuvent aller de l'écologie, des notions d'histoire, des notions de philosophie. Et puis le principe également, c'est que c'est complètement gratuit et que c'est accessible à tous. Donc ça se déroule tous les mardis soirs à 18h30 et dans la plupart des cas, c'est à la salle Martin Luther King au Banlay, dans le quartier du Banlay. Un événement aura lieu à l'auditorium donc le 12 mars.
Le Banlay à Nevers donc.
Ah c'est ça, tout à fait, à Nevers.
Est-ce que vous pouvez prendre exemple de quelque événement imminent ou futur ? Pour nous, alors évidemment, ce sont des conférences, j'imagine, assez longues. Combien de temps elles durent à peu près ?
Ça dure environ une heure d'exposé de l'intervenant. Et puis ensuite, il peut s'engager un débat qui, après, peut avoir une longueur assez variable. Hein, ça dépend des questions du public. Et donc, l'événement dont on peut parler plus particulièrement, concerne tout particulièrement Nevers, puisqu'on va parler le 12 mars à l'auditorium d'Adam Billot. Donc, ça sera une chercheuse en sciences sociales, Madame Dina Ribard, qui va venir de Paris pour parler d'Adam Billot, le menuisier de Nevers. Voilà, sur la poésie ouvrière en lien avec son métier, en fait, l'artisanat, la menuiserie. Voilà. Et cette fois-là, ça sera une intervenante parisienne, mais on essaye également de privilégier des conférenciers locaux.
Donc l'événement est commencé depuis le mardi 9 janvier. Il durera jusqu'à fin mars. Est-ce que toutes ces conférences sont réunies par thématique ou est-ce que c'est vraiment une conférence, un sujet et il n'y a pas forcément de lien à chercher entre chacune ?
Alors ça c'est la programmation jusqu'au mois de mars, ensuite ça continue jusqu'à la fin de l'année et puis on recommence après les grandes vacances. Non, c'est pas réuni par thématique. Le fait est que ensuite il y a des conférences qui se répondent d'une fois à l'autre et puis je trouve que c'est intéressant de passer un petit peu du coq à l'âne et de voir que ça se répond précisément. La dernière fois c'était sur l'eau dans l'agriculture paysanne, et puis ça permet justement de développer des choses au niveau de la géographie, au niveau de la géologie, de voir les résonances dans d'autres sciences. C'est un petit peu ça qui est à l'origine du titre « Les haltérophiles ». C'est altérer sa façon de voir en apprenant des choses de disciplines qui sont étrangères, notamment de faire venir des gens qui ne sont pas des professeurs ou des universitaires pour voir de quelle manière, par leur point de vue, ils peuvent modifier notre manière de penser. Donc ça va être la prochaine fois le 6 février sur le droit des animaux, donc une sensibilisation au droit des animaux par une juriste, une magistrat qui intervient pour Nièvre 214 pour la protection des animaux, donc quelque chose de droit. Et puis ensuite on va vers la philosophie le 13 février avec une conférence d'un professeur de philosophie qui s'appelle Benoît Schneckenburger sur Machiavel, pardon, la violence de Machiavel. J'ai laissé Émilie parler de la suite.
Oui, le 5 mars, on parlera de la prison avec une femme qui a écrit plusieurs ouvrages. Elle n'est pas universitaire, hein, mais elle a écrit plusieurs ouvrages et elle est en lien par le biais d'une radio qui converse chaque semaine avec des prisonniers. Donc ensuite, le 12 mars, comme je l'ai dit, une conférence sur Adam Billot qui, cette fois-là, exceptionnellement, aura lieu à l'auditorium à 18h30. Et puis ensuite, une conférence d'histoire sur Pierre-Gaspard Chaumette, là, qui a été préparée par un universitaire, qui est un Allemand, qui a écrit une thèse, donc Heinrich Blomeck, qui a écrit une thèse sur Pierre-Gaspard Chaumette, donc qui est un révolutionnaire originaire de Nevers. Et puis enfin, une dernière conférence sur le métier de photographe. Donc ça sera le 26 mars, cette dernière, mais il y a un nouveau cycle de conférences va arriver ensuite puisque, comme nous l'avons dit, ça se tient tous les mardis soirs en dehors des vacances, enfin pendant toutes les périodes en dehors des vacances scolaires pendant lesquelles on fait des pauses.
Où peut-on aller trouver l'information et le programme complet ? Est-ce que vous avez un site internet ou vous utilisez les réseaux sociaux pour diffuser cette information ?
Alors on a fait le choix de ne pas utiliser les réseaux sociaux et on n'a pas encore pris le temps de faire un site internet. Donc c'est vrai que c'est pas évident de trouver l'information. On peut le trouver sur la page culture de la ville de Nevers. On tracte dans différents endroits. Et puis après, Émilie, j'oublie peut-être des choses.
On a également une liste de diffusion à laquelle tout le monde peut nous réclamer le programme. Donc ça s'appelle, enfin l'adresse mail, c'est lesaltérophiles@gmail.com.
Et on mettra cette adresse sur le site internet de l'émission. Je vous remercie à tous les deux.
Merci beaucoup.
Et merci beaucoup.
When I was young, me and my mama had beef, 17 years old, kicked out on the street. Though back at the time, I never thought I'd see a face. Ain't a woman alive that could take my mama's place. Suspended from school, I'm scared to go home. I was a fool with the big boys, breaking all the rules. Shed tears with my baby sister. Over the years, we was poor than other little kids. And even though we had different daddies, the same drama when things went wrong, we blamed mama. I reminisce on the stress I caused. It was hell, hugging on my mama from a jail cell. And who'd think in elementary? Hey, I see the penitentiary. One day, running from the police, that's right. Mama cast me for the whooping to my backside. And even as a crack fiend, mama, you always was a black queen, mama. I finally understand, for a woman it ain't easy trying to raise a man. You always was committed, a poor single mother on welfare. Tell me how you did it. There's no way I can pay you back, but the plan is to show you that I understand. You all appreciate it. Nobody tell us it was fair. No love for my daddy, cause the coward wasn't there. He passed away and I didn't cry, cause my anger wouldn't let me feel for a stranger. They say I'm wrong and I'm heartless, but all along I was looking for a father, he was gone. I hung around with the thugs, and even though they sold drugs, they showed a young brother love. I moved out, started really hanging. I needed money of my own, so I started slanging. I ain't guilty, cause even though I sell rocks, it feels good putting money in your mailbox. I love paying rent when the rent's due. I hope you got the diamond necklace that I sent to you. When I was low, you was there for me, and never left me alone because you cared for me. And I could see you coming home after work late. You're in the kitchen trying to fix us a hot plate. Just working with the scraps you was given. And mama made miracles every Thanksgiving. But now the road got rough, you're alone, trying to raise two bad kids on your own. And there's no way I can pay you back, but my plan is to show you that I understand. You all appreciate it. Pour some liquor and I reminisce, cause through the drama I can always depend on my mama. And when it seems that I'm hopeless, you say the words that can get me back in focus. When I was sick as a little kid, to keep me happy, there's no limit to the things you did. And all my childhood memories are full of all the sweet things you did for me. And even though I act crazy, I gotta thank the Lord that you made me. There are no words that can express how I feel. You never kept a secret, always stayed real. And I appreciate how you raised me, and all the extra love that you gave me. I wish I could take the pain away. If you can make it through the night, there's a brighter day. Everything will be alright if you hold on. It's a struggle every day, gotta roll on. And there's no way I could pay you back, but my plan is to show you that I understand. You all appreciate it.
Esmos, The Thrill Is Gone, c'était le choix musical de l'invité du jour, Clément Boutillon. Parle-nous de la musique d'ailleurs, puisque tu en fais de la musique.
Oui.
Et là, tu as choisi ce titre, pourquoi ?
Alors, dans la musique, j'aime beaucoup de choses différentes. Ça va du rock au hip-hop, un peu de rap, mais aussi le classique. J'adore tout ce mélange. Et il fallait choisir un titre. Et je t'avais donné un premier titre. Et ce matin, j'ai changé un peu d'avis et trouvé quelque chose qui correspondait mieux. Et notamment, The Thrill Is Gone de Esmos, qui mélange à la fois ce piano qui est incroyable, je trouve, et le hip-hop, mais de manière assez bien, bien mené pour que ce soit pas trop violent aussi.
Tu m'avais proposé Harrison Kennedy, Imagine, on l'écoutera une autre fois.
Avec plaisir.
Hein, pourquoi pas. Est-ce que tu peux nous parler de tes dernières créations, des projets que tu as sur le feu, puisque tu es sans arrêt en train de créer de nouvelles formes, de compléter tes collections. Qu'est-ce qui est en cours?
Alors, dernièrement, là, il y a trois grands vases qui sont sortis. Sur trois collections différentes, donc le vase Méduse, inspiré de la lampe, le vase Aéro, qui se rapproche de la science-fiction, et le vase Shibari, qui ouvre sur une nouvelle collection. Et il y a aussi une nouvelle lampe, donc la lampe Istuti, qui est en fait une lampe inspirée du vase que j'ai déjà créé, qui permet d'être posée soit en suspension, soit de s'accrocher un peu partout au mur, dans les vieilles maisons, etc. Ça va me permettre de travailler un peu plus avec les décorateurs, d'aller sur un nouveau secteur, car les vases sont des vases très haut de gamme. Dans les mois à venir, le gros du travail va être déjà de développer un peu ma présence sur des revendeurs, un peu partout, voilà, en France et aussi en Europe, États-Unis aussi. Et le nouveau travail va se faire sur, je pense, des nouvelles lampes encore pour pouvoir agrandir un peu la proposition que j'ai actuellement. Et j'aimerais bien aussi finir peut-être, ou plutôt agrandir une collection avec plus de pièces dans tel univers, par exemple pour la montagne ou la science-fiction, justement, on en parlait, d'avoir voilà, un peu plus de pièces qui pourraient amener plus tard vers une exposition, des choses comme ça.
Alors, quand tu mets au point un objet, évidemment, il y a tout un univers qui se crée autour de cet objet. Mmh. Et cet univers peut être le point de départ d'une collection qu'ensuite tu développes, hein,
oui.
C'est ça?
Alors là, j'essaie de pas trop agrandir les univers parce qu'il y en a déjà pas mal. Mais c'est vrai que des fois, il y a des idées qui arrivent et ben, je suis là, bon, bah, voilà, l'idée est là et il va falloir l'intégrer pour que ce soit cohérent dans la collection, enfin, dans l'ensemble que je présente déjà.
Ce qui est amusant dans tes lampes, je trouve, c'est que tu travailles donc la faïence qui est un matériau plutôt opaque. Et donc, sur la lampe Méduse, mm-hmm. par exemple, la lampe Méduse, alors elle a une forme assez, un volume assez imposant, mais qui est en l'air, avec un piétement qui est intégré. Et du coup, elle semble un petit peu défier les lois de la gravité. On parlait de science-fiction tout à l'heure. Elle a une forme très complexe,
oui.
qui est pas tout à fait une forme de révolution, même si elle est à peu près symétrique. Et la lumière se diffuse par des ajours qui sont percés, hein, c'est ça?
C'est ça. En fait, ce travail, bah, il date, c'est un des premiers projets que j'avais lancé avec la théière, donc, qui a mis longtemps à sortir. C'était de réimaginer un peu la pipistrello, mais d'une manière totalement différente. Donc en fait, on va dire le cahier des charges, donc, mais ce que je m'imposais en tant que designer sur cet objet, c'était d'imaginer une lampe qui soit elle-même son propre abat-jour. Donc il n'y a pas d'abat-jour rajouté, et ce qui apportait quelque chose de très complexe. Et ça a en même temps un peu dessiné la forme, c'est-à-dire qu'on a un grand dôme qui est très très compliqué à faire en faïence et qui permet voilà, de répandre la lumière à travers des ajournements, des trous dans la lampe. Et tout ça est en fait dessiné et repensé pour qu'il y ait une cohérence, que voilà, tout soit très bien imaginé pour en faire quelque chose qui produit de la lumière.
D'ailleurs, combien de temps te faut-il pour mettre au point un objet comme ça? Alors, ma question a deux parties en réalité. Combien de temps te faut-il pour créer le prototype, c'est-à-dire le mettre au point pour la première fois, le concevoir, l'imaginer, et puis ensuite le concevoir une première fois, et puis après, lorsque la série, même si c'est une petite série, est lancée, combien de temps te faut-il pour en produire une sur le même
Alors,
moule?
Ça va dépendre des objets. De la complexité de la forme, etc. Par exemple, la dernière théière, il m'a fallu, qui n'est pas encore visible là, mais il m'a fallu deux, trois mois pour penser l'objet. Donc, j'y passe pas tous les jours. Mais il faut un temps, en fait, pour laisser les choses se développer d'elles-mêmes.
Mûrir, oui.
Voilà. Et après ça, il y a tout un travail de création de modèles qui se fait dans l'atelier, de fabrication de moules. Et ça peut prendre entre 2 semaines et 1 mois. Et à partir de là, on peut commencer à avoir un premier tirage. Mais si après, il faut pouvoir créer les outils de production, ça peut être assez complexe. Par exemple, pour les grands vases, je n'ai pas encore vraiment lancé les outils de production parce que, par exemple, le vase Shibari, il y a 7 parties, je crois, ou 6 parties de moule. Donc, en fait, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Donc, ça viendra plus tard. Mais voilà, ça peut, c'est très variable selon les objets.
Tu travailles toujours seul ?
Des fois, j'ai des stagiaires qui m'aident beaucoup, qui me sont d'une grande aide, qui touchent à la fois à la création, enfin, ils font exactement le travail que je fais, c'est-à-dire qu'ils vont faire de la photo, de la création, de la fabrication. Et sinon, pour le reste, oui, je suis plutôt en autonomie, même si je vais être de plus en plus aidé et de plus en plus travailler avec des décorateurs, etc., parce qu'il faut vraiment échanger avec et faire un réseau.
On peut repréciser maintenant ce qu'on a déjà un peu dit à demi-mot tout à l'heure, que tu gères par contre à peu près toute la chaîne, hein, c'est-à-dire oui, de la conception, même jusqu'au marketing et la mise en vente.
C'est ça, du dessin à la photographie en passant par la vente. Parce que voilà, moi j'adore faire tout ça. C'est aussi le temps de développer la collection, de développer l'entreprise. Voilà, je travaille pour faire en sorte que ça se développe, de pouvoir accueillir d'autres personnes dans l'avenir.
Si on veut trouver tes productions, on peut se rendre directement à l'atelier, bien sûr, mais il y a aussi peut-être une vente en ligne ?
Alors oui, donc il y a le site internet et les réseaux sociaux qui présentent à la fois les objets mis en situation, qui racontent l'histoire de ces objets. Parfois, il y a des vidéos aussi qui présentent la manière dont je travaille. Tout ça, c'est visible sur clementboutillon.com. Et ensuite, bien sûr, à l'atelier.
Alors, est-ce que tu peux nous donner l'adresse et les horaires d'ouverture de l'atelier pour
venir
te trouver?
L'atelier boutique est situé rue des Récollets, donc 14 rue des Récollets. C'est la rue qui monte au Petit Théâtre. Donc, je suis dans le Vieux Nevers. C'est vraiment l'endroit assez sympa pour se balader. Il est ouvert. Donc, pour ça, il faut bien regarder sur Google, en fait, les horaires d'ouverture que je mets à jour. Et il faut sonner pour pouvoir entrer, parce que je suis souvent à la verrière ou à côté. Donc en fait, dès que vous sonnez, moi je reçois un appel et je vous réponds et j'arrive. Et donc sinon, les horaires habituels, c'est 10h30, 4, midi, 14h, 18h30, du mardi au samedi.
C'est pas merveilleux. On va mettre toutes ces informations sur les réseaux sociaux.
Avec plaisir.
fdv.9rfm.
Et surtout aussi, ensuite, il y a la verrière où on peut aussi retrouver les pièces, qui aussi permet d'ouvrir l'autre atelier, donc 38 rue François Mitterrand, et qui est ouvert aux mêmes horaires.
Il me vient d'ailleurs une petite question. On a parlé de tes inspirations. Est-ce que toutes tes productions sont le résultat d'une réflexion personnelle ou est-ce qu'il t'arrive de réaliser des commandes ?
Je ne réalise pas de commandes, tout simplement parce qu'en fait, c'est beaucoup de travail et il faut que ça profite à ma collection. Et en fait, quelqu'un qui veut quelque chose sur mesure, ça coûte énormément cher. Et c'est vraiment trop compliqué, en fait. Donc, je préfère vraiment me concentrer sur mes collections et proposer mon univers.
Bien sûr. Et puis, ça peut, en plus, ça risque d'être une production unique, ce qui n'est pas tout à fait ta logique.
De moins en moins, oui. En fait, les pièces uniques sont trop compliquées à fabriquer. Dans mon atelier, l'idée, c'est de tout fabriquer de manière responsable, donc de ne pas jeter de pièces, etc. Et donc, faire de la sérénité, c'est de moins en moins en cohérence avec ce que j'aime faire pour la céramique qui est très capricieuse à faire.
C'est l'heure du coup de cœur de l'invité. Tu voulais nous parler d'un cycle de conférences organisé par le Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, c'est
ça ? Tu as tout dit, voilà.
Alors, donc, tu précises quelles conférences ?
Ce sont un cycle de conférences, je crois qu'il y a 5 conférences qui parlent du travail de la Terre à travers différentes civilisations, différentes époques. Il faut réserver directement sur le site du Musée de la Faïence ou par téléphone.
Là aussi, on mettra les informations sur les réseaux sociaux et sur le site de l'émission.
Parfait.
C'était Façon de voir sur 9h FM, le rendez-vous culture. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle édition. Alors, on changera complètement d'univers, puisqu'on parlera cette fois de faits divers.
Et on recevra Bertrand Hiverneau, qui est chroniqueur police-justice au Journal du Centre et qui nous parlera notamment de son livre Le dentiste du Morvan. Merci à mon invité du jour, Clément Boutillon, créateur, designer, céramiste, faïencier. Merci de nous avoir fait partager ta passion,
merci
de nous
beaucoup,
avoir parlé
Samuel.
De ta pratique et de ce qui t'anime. Je remettrai, bien sûr, je l'ai dit, toutes les informations pour aller trouver ta collection, pour aller se procurer les objets que tu as conçus sur le site. Alors n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à la page Facebook de l'émission. C'est fdv.9rfm en un seul mot. C'est le même identifiant pour Instagram et pour Facebook. Vous pouvez également trouver la page de l'émission sur le site de 9rfm. C'est 9r.fm. Vous cliquez sur l'onglet replay, façon de voir. Portez-vous bien jusqu'au mois prochain et à bientôt.
Merci.